VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 14 novembre 2016. Au sommaire ce soir...
Démission du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo.
Un retour sur le décret visant les médias audiovisuels étrangers en RDC. Nous vous offrirons une analyse.
Ouverture ce lundi à Marrakech, au Maroc, du sommet sur le climat, la COP22.
Ici aux États-Unis, les manifestations contre Donald Trump se poursuivent et s'intensifient, alors que le président élu a nommé les premiers hauts responsables de son administration.
Et les sports et l'économie, ce sera juste après le journal. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Matata Ponyo a donné sa démission en vue de faciliter l'application de l'accord issu du récent dialogue avec une partie de l'opposition. Le point avec Eric Ambago de notre station partenaire Top Congo FM.
C'était attendu. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présenté sa démission ce lundi auprès du chef de l'État. Pour le Premier ministre démissionnaire, cette démarche va permettre la formation du gouvernement issu du dialogue.
Le dépôt de cette démission, c'est pour répondre à l'esprit et à la lettre de l'accord global.
Selon l'accord conclu à la Cité de l'Union africaine, le futur Premier ministre doit être issu de l'opposition. Son investiture à l'Assemblée nationale ne posera pas problème, selon Oba Minaku, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle.
Dès que la majorité parlementaire accepte un Premier ministre sorti de l'opposition, il n'y a pas du tout de difficultés d'ordre constitutionnel.
Le chef de l'État, qui s'adressera ce mardi à la nation devant le Parlement réuni en congrès, a aussi reçu une délégation de l'opposition qui a pris part au dialogue. Kinshasa, Eric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
Au moins 10 chiites nigérians ont été tués aujourd'hui dans des affrontements avec la police à Kano, dans le nord du Nigeria. Les chiites, minoritaires dans le pays, effectuaient une procession religieuse. Les précisions de Tatiana Mosso.
Les affrontements ont éclaté alors que des membres du mouvement islamique du Nigeria, groupe chiite partisan de l'instauration d'un régime à l'iranienne dans l'état de Kaduna, marchaient pour le traditionnel pèlerinage chiite qui se déroule 40 jours après la fête de l'Ashura. Les pèlerins devaient se rendre de Kano à Kaduna où leur mouvement a été interdit par les autorités. Le nord du Nigeria, où la charia est en vigueur, est majoritairement sunnite. L'hostilité envers les chiites est récemment montée d'un cran et les imams radicaux n'hésitent plus à faire des prêches haineux contre cette minorité, selon des habitants. Amnesty International a accusé l'armée d'avoir massacré plus de 350 musulmans chiites entre le 12 et le 14 décembre 2015 à Zaria, dans l'état de Kaduna, et d'avoir enterré les cadavres dans une fosse commune. Une enquête indépendante du gouvernement avait conclu en août dernier que 347 chiites avaient bien été abattus, mais personne dans l'armée n'a à ce jour été jugé ou condamné pour ce massacre. La moitié de la population du Nigeria est musulmane, quasi entièrement sunnite, avec une petite minorité de chiites selon les chiffres officiels.
En Mauritanie, ouverture ce lundi à Zouerat du procès en appel de militants anti-esclavage, condamnés notamment pour usage de la violence. Les prévenus, 13 militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, ont été condamnés à des peines de 3 à 15 ans de prison par un tribunal de Nouakchott et ont été transférés en septembre à Zouerat. Ils sont jugés en même temps que 7 habitants du bidonville de Ksar, dont le déguerpissement avait provoqué des heurts avec la police. Une dizaine de policiers avaient été blessés, selon les autorités.
Les avocats de Bosco Ntaganda ont demandé au juge de la Cour pénale internationale de suspendre son procès pour crime de guerre. La procureure Fatou Bensouda a accusé Ntaganda de subornation de témoins. La défense a demandé une suspension immédiate des procédures jusqu'au 16 janvier, au moins, ou jusqu'à ce que les informations décrites dans les documents de la procureure aient été transmises, a affirmé l'avocat Stéphane Bourgon dans les documents publiés sur le site de la CPI.
Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a annoncé la démission du gouvernement dirigé par le Premier ministre Bassirou Dia afin de former une nouvelle équipe conformément à l'accord de Conakry. Monsieur Vaz a déclaré devoir nommer un nouveau Premier ministre chargé de former un gouvernement inclusif, le choix par consensus n'ayant pas été atteint. Le pays traverse une crise politique depuis la destitution en août 2015 du Premier ministre Domingo Simoes Pereira, chef du parti au pouvoir.
En Côte d'Ivoire, les frondeurs du Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo ont décidé de ne pas participer aux élections législatives du 18 décembre. Mais l'autre branche du FPI, conduite par Pascal Affine-Guessant, a annoncé qu'elle prendra part à ces élections.
La famille du magistrat français Bernard Borel, mort à Djibouti en 1995 dans des conditions mystérieuses, a déposé plainte en dénonçant la destruction de pièces à conviction d'une importance majeure dans l'enquête ouverte à Paris pour assassinat, selon ses avocats. Magistrat détaché à Djibouti, Bernard Borel avait été retrouvé mort, le corps carbonisé en contrebas d'un ravin à 80 km de la ville. L'enquête française avait d'abord privilégié la thèse du suicide avant de se réorienter sur un assassinat.
En Tunisie, 4 importantes caches d'armes ont été découvertes aux environs de Ben Gherdan depuis samedi, près de la frontière libyenne. La quatrième a été mise à jour ce lundi à El Ameria, alors que les opérations de ratissage se poursuivent. Dimanche, une cinquantaine de fusils et des dizaines de missiles avaient été saisis. 30 caisses de munitions et des explosifs ont également été recensés. 4 personnes interpellées. En mars dernier, les attaques coordonnées à Ben Gherdan avaient fait plus de 75 morts, dont 7 civils, 13 membres des forces de l'ordre et plus de 55 djihadistes.
Les autorités marocaines ont effectué une saisie record de drogue sur un bateau de pêche au large des côtes du Sahara occidental, a annoncé le Bureau central d'investigation judiciaire. La cargaison de cocaïne provenait d'un pays latino-américain, selon le BCIJ, faisant état de 2 arrestations.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ouverture à Marrakech de la seconde phase de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette deuxième semaine de la COP22 débute sur une note pessimiste suite à l'élection du climatosceptique Donald Trump à la Maison-Blanche. Le point avec Dilly Dico.
Pour les plus de 190 pays réunis à Marrakech, il s'agit de faire avancer la mise en œuvre de l'accord de Paris signé l'an dernier. Cet accord vise à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Les experts présents à la COP22 rappellent qu'au-delà de ce seuil, il serait extrêmement difficile de s'adapter aux impacts des dérèglements climatiques dans de nombreuses zones du monde. La seconde partie de la COP22 débute sur fond d'annonces alarmistes. Selon l'Organisation météorologique mondiale, OMM, l'année 2016 devrait battre un nouveau record de chaleur avec une température planétaire moyenne supérieure d'environ 1,2 degrés Celsius au niveau de l'ère pré-industrielle. Un autre sujet d'inquiétude, l'élection à la présidence américaine du républicain Donald Trump. Selon une source au sein de son équipe, que cite l'agence Reuters, il entend retirer les États-Unis de l'accord sur le changement climatique le plus rapidement possible. Les autres pays attendent de voir ce qu'il en sera.
Oui, et on qualifie Donald Trump, comme nous l'avons dit, de climato-sceptique. Nathalie.
Oui, le président sénégalais Macky Sall a quitté Washington à destination de Marrakech, où il prendra part à la COP22. Invité par le conseil d'administration du FMI, le dirigeant sénégalais a tenu plusieurs rencontres, notamment dans les milieux d'affaires. On l'écoute au micro d'Idriss Fall.
Après Paris, on va aller certainement à Marrakech vers un tournant. Ce tournant devrait être l'action autour du respect des engagements. D'abord pour les grands pays de faire de l'atténuation, c'est-à-dire de s'adapter et de polluer moins. L'humanité n'a pas le choix. Si on continue le système de production tel que nous l'avons aujourd'hui, nous allons certainement et très rapidement vers la destruction de notre planète due à l'émission de gaz à effet de serre. Les pays africains qui subissent les effets de ces changements sans être des pollueurs, parce que toute l'émission de l'Afrique réunie jusqu'en 2040 sera inférieure à 3%. Donc les grands pays comme les États-Unis, la Chine et l'Europe doivent polluer moins, mais doivent contribuer au financement du fonds vert pour que les pays qui sont en voie d'émergence n'empruntent pas les mêmes schémas industriels. Les alternatives, ce sont les énergies propres, comme le solaire. Le Sénégal vient de montrer l'exemple. Nous venons d'inaugurer 2 centrales de 40 MW en solaire et nous allons à 200 MW d'ici l'année prochaine, de solaire plus de l'éolienne et de l'hydraulique. Mais on doit accompagner ces solutions. Et le fonds vert pour le climat doit permettre de soutenir ces États qui font les efforts d'avoir des énergies alternatives. Voilà, c'est la responsabilité des États, ils doivent l'assumer.
Voilà, c'était le président sénégalais Macky Sall.
Les 28 pays de l'Union européenne ont approuvé une nouvelle série de sanctions individuelles contre les responsables du régime syrien, accusés de prendre part à la violente répression contre la population. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco avec Nanit Talani.
Il est impératif que les pays producteurs de pétrole parviennent à un consensus pour appliquer l'accord d'Alger sur une réduction de la production de pétrole, a averti hier le ministre saoudien de l'énergie, Khaled Al-Faleh, à Alger. Ces pays doivent aboutir à un consensus, s'entendre sur un mécanisme efficace et des chiffres précis. Ils doivent encore procéder à la difficile répartition des quotas pays par pays et aboutir à un accord juste et équilibré en permettant à la Libye et au Nigeria de relever leur production après le retour de la stabilité sécuritaire. Au Togo, la Banque africaine d'import-export Afreximbank vient d'annoncer son intention de lever près $1 milliard pour soutenir les échanges commerciaux et la construction d'infrastructures dans le transport, l'énergie et la logistique dans le pays. Le plan d'action d'Afreximbank porte aussi sur l'appui aux petites et moyennes entreprises, l'agriculture et le tourisme, tenant ainsi compte de certains axes prioritaires définis par les pouvoirs publics et le secteur privé. Enfin, au Rwanda, Bank of Kigali a annoncé avoir réalisé un bénéfice avant impôt de 24,9 milliards de francs CFA, soit $30 millions, durant les 9 premiers mois de l'année 2016. Ce chiffre représente une hausse de 22,9% par rapport au bénéfice perçu par la banque la même période de l'année précédente.
Passons tout de suite à la page sport avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin.
Parlons de cette victoire canadienne au Tour du Rwanda.
Le Canadien Guillaume Boivin s'est imposé lors de la première étape du Tour du Rwanda ce lundi entre Kigali et Ngoma. Au bout des 96 km, le Canadien de l'équipe Cycling Academy Team s'impose non loin de la frontière tanzanienne au sprint devant deux Érythréens, Solomon Zemenfes et Tesfom Okubamariam. Boivin est deuxième au classement général à une seconde du leader rwandais Joseph Areruya. Demain, la deuxième étape entre Kigali et Karungi.
Rien ne va plus, semble-t-il, chez les Bafana Bafana, Nicolas.
La Fédération sud-africaine de football a annoncé la suspension du sélectionneur national Chakes Mashaba pour cause d'indiscipline. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, le sélectionneur des Bafana Bafana n'a pas vu ses relations avec la Fédération s'améliorer malgré la victoire contre le Sénégal 2-1 lors des éliminatoires. Évoquant un regrettable incident, l'instance a annoncé la suspension du technicien qui avait mis plus d'une heure pour aller en conférence de presse samedi après la victoire de ses hommes. C'est son adjoint Owen Dagama qui sera sur le banc mardi pour l'amicale face au Mozambique.
Ce week-end, les éliminatoires de la zone ont laissé un goût amer aux Sénégalais.
Grosse erreur d'arbitrage en Afrique du Sud, on l'évoquait, qui a coûté la victoire aux Sénégalais sur un pénalty imaginaire contre l'Afrique du Sud 2-1. L'Algérie chute 3-1 contre le Nigeria. L'Égypte bat le Ghana 2-0. La RDC s'impose à Conakry 2-1 contre le Sili National. Match nul entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, le Mali et le Gabon et le Cameroun face à la Zambie.
Le football ivoirien en deuil.
Oui, Laurent Pokou est décédé des suites d'une longue maladie hier. L'ex-international ivoirien avait 69 ans, quadruple champion de Côte d'Ivoire et sextuple vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire avec l'ASEC Abidjan. Pokou a longtemps détenu le record des buts marqués lors de la CAN avec 14 buts marqués avant d'être dépassé en 2008 par Samuel Eto'o. Il reste le seul joueur de l'histoire de la CAN à avoir inscrit un quintuplé. C'était en 1970 contre l'Éthiopie. Pokou a reçu son plus bel hommage en 1972 lorsque le roi Pelé a déclaré « J'ai trouvé mon successeur, il s'appelle Laurent Pokou, il n'a qu'un défaut, il n'est pas brésilien ».
Enfin, dans la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Le champion en titre Cleveland a consolidé sa première place en tête de la conférence Est avec sa 8e victoire en 9 matchs en battant Charlotte 100-93. Golden State s'est fait peur, mais victoire 133-120 contre Phoenix. Alors que Serge Ibaka, pour sa première visite sous le maillot d'Orlando, s'est rappelé au bon souvenir d'Oklahoma City. Victoire 119-117. Enfin, les Lakers ont bu la tasse, 125-99 à Minneapolis. C'est leur troisième match à l'extérieur en 4 jours.
Merci Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Gaby Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, Kinshasa.
En RDC, le ministre de la Communication, Lambert Mende, a signé un décret disposant que les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent être autorisées à opérer de manière continue dans le secteur de la radiodiffusion sonore et de la télévision, moyennant une participation majoritaire des Congolais dans le capital de la dite société. Les Nations Unies se disent préoccupées par ce décret et la presse nationale est inquiète. Arzuma Compaoré a joint Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse de la RDC.
La loi de 1996 qui dit qu'une ou plusieurs personnes physiques ou morales étrangères peuvent créer en association avec les Congolais, entreprise de presse, sous réserve d'une participation majoritaire des Congolais au capital de la société. Donc, il rappelle une disposition qui n'a jamais été appliquée, ça fait longtemps, mais il rappelle aujourd'hui, il veut que ce soit appliqué maintenant. Voilà ce que je retiens de ça.
Les Nations Unies se disent très préoccupées par ce nouveau décret. Est-ce qu'il y a lieu d'être préoccupé, effectivement?
Tous les journalistes et tous les amis qui se rencontrent m'expriment leur inquiétude. Nous essayons de les rassurer et nous attendons que les nouvelles structures politiques soient mises sur pied à partir de ce soir ou demain. Comme ça, nous allons pouvoir contacter les nouveaux dirigeants. Qu'il y ait RFC qui est coupé, radio rapide qui est bruit et qu'on remonte à la surface de ces dispositions. Il y a de quoi être inquiet parce que même nous, les journalistes congolais, nous sommes inquiets parce que nous disons que demain, par les deux mois, ils vont venir, nous qui sommes, qui n'avons pas de force, ils vont nous écraser. C'est ça le problème, c'est ça l'inquiétude des Nations Unies que nous partageons.
Alors, le décret donne un délai de 30 jours aux radios et télévisions étrangères émettant en RDC dans des conditions non conformes pour se mettre en règle. Est-ce que vous pensez que c'est un délai qui est raisonnable?
Non, d'abord, je ne vois pas un État étranger fonctionne dans notre pays où les Congolais ne sont pas majoritaires. C'est possible. Mais je ne saurais pas le dire avec exactitude pour savoir si le délai est raisonnable ou pas. Comme je le dis toujours, la démocratie, la majorité rit, l'opposition contredit. Celui-ci a beaucoup d'arguments pour faire l'opinion. C'est comme ça qu'il y a la démocratie. On ne peut pas aujourd'hui, parce que tel média a dit un mot de plus, allez, il faut fermer. Donc, à ce moment-là, nous sommes dans la dictature. C'est qu'il faut éviter.
C'était Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
3 ans après le début des violences à Bangui, plusieurs centaines de familles sont toujours sans abri. Elles vivent dans des camps de fortune. Nombreux sont ceux qui désirent rentrer chez eux mais craignent encore pour leur sécurité. Reportage de Freeman Sipila sur le site des déplacés de l'aéroport Bangui Mpoko.
Le camp des déplacés de l'aéroport Bangui Mpoko reste l'un des plus grands sites de la capitale malgré l'annonce de sa prochaine fermeture par le gouvernement. Malgré le retour progressif de la stabilité à Bangui, plusieurs centaines de familles vivent encore dans ce camp de fortune. Valentin est fonctionnaire au secrétariat général du gouvernement. Lui, sa femme, ses 7 enfants et ses 3 petits-enfants ont passé 3 années ici dans la zone numéro 1 de ce site, en dépit des tentatives de sortie.
Vivre dans de pareilles conditions, c'est dramatique, mais on ne peut rien faire parce que c'est sûrement la sécurité. Moi, j'ai eu quand même la chance d'être fonctionnaire, mais je ne peux pas joindre les deux bouts parce que je n'ai plus de maison. J'ai tenté de louer, mais là où je vais louer aussi, il y a les attaques à main armée, donc je suis obligé de me baser ici à Poco.
Le gouvernement et les organisations humanitaires œuvrent sur un projet de retour volontaire de ces personnes à leur domicile pour certains. D'autres seront délocalisés sur un site aménagé dans le 5e arrondissement. la seule préoccupation présente sur toutes les lèvres, une garantie de sécurité.
Je vous dis, les gens qui sont là, ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent, hein, même si aujourd'hui l'État donne 1 million à chacun. Je vous dis que après 5 jours, après une semaine, ces gens-là peuvent retourner ici s'il n'y a pas la sécurité.
À la coordination de la zone numéro 1, les responsables sont aussi préoccupés par cette question de sécurité. Le gouvernement et la MINUSCA leur ont fait des promesses, mais eux attendent des actions concrètes. Brice Kevin d'Agbinon, point focal Wesh, dans la coordination de la zone 1.
Et le gouvernement, ces derniers temps, ils sont présentés ici dans la zone pour voir, pour recenser les déplacés et pour voir comment faire pour qu'ils regagnent leurs demeures respectives. On est aussi en attente pour voir ce qui va se déclencher, voilà. Et nous voulons ce que la sécurité revienne. Ça, c'est la première condition. Parce qu'on peut nous donner des choses, mais voilà, ça, c'est la question de vie. Hein. Si on retourne là-bas, voilà, si on perd nos vies, voilà.
Pour le gouvernement, des projets pour des solutions durables au problème des déplacés sont en vue. Bientôt, le site de Poko sera fermé. Sylvain Demango, chargé de mission au ministère des Affaires sociales et de la Réconciliation.
Il faut savoir que le gouvernement travaille déjà, le ministère travaille, par rapport au retour des déplacés internes. Il y a certains ledgers qui ont été fermés. Il y a ledger de l'aéroport Bangui Poko qui sera bientôt fermé. Il y a un programme pour le retour de nos compatriotes, soit ceux qui ont encore des maisons, qu'on puisse réhabiliter les maisons afin qu'ils regagnent leurs maisons. Ceux qui n'ont pas de maisons, il est prévu de leur trouver les moyens, peut-être de location, pendant certains temps, le temps de construire leur maison. Donc il y a un programme.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Les avocats anglophones du Cameroun menacent de cesser toute activité juridique si les lois de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ne sont pas traduites en langue anglaise. L'anglais et le français sont deux langues officielles au Cameroun. Cependant, les anglophones se plaignent d'être négligés. Écoutez ce reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka.
Depuis près d'un mois, les avocats anglophones sont en grève. Parmi leurs revendications, l'affectation hors des zones anglophones des magistrats et juges francophones qui ne maîtrisent pas l'anglais. Selon eux, la justice ne peut être appliquée si les magistrats et les plaignants ne se comprennent pas. Ils dénoncent aussi le fait que certains textes du droit camerounais n'existent qu'en langue française, ce qui est contraire à la constitution du pays qui prévoit que tout document officiel doit exister dans les deux langues officielles. Raison pour laquelle ces avocats appellent à une traduction complète en langue anglaise du droit camerounais concernant les lois de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les avocats anglophones réclament aussi sa traduction en anglais. À la suite des menaces de boycott des audiences par les avocats, le gouverneur du Nord-Ouest Lele l'Afrique d'Eben Tchofo Adolphe a interdit toute manifestation publique, ce qui a provoqué un mouvement d'humeur chez les avocats qui ont manifesté dans les rues de Bamenda. Sur les autres motivations liées à cette manifestation, Maître Harmony Bobga, avocat au barreau du Cameroun, s'exprime.
We are gentlemen, we are peaceful.
Malgré ces interdictions de manifestation, les avocats anglophones continuent les marches dans les rues, pas seulement à Bamenda, mais aussi dans les autres villes anglophones du pays, telles Boya, Limbe et Kumba. Les autorités administratives tentent en vain de calmer l'ardeur des manifestants en leur rassurant que le gouvernement travaille sur le dossier. Tout compte fait, les avocats anglophones continuent la révolte et appellent à la création d'un barreau anglo-saxon au Cameroun. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, les manifestations contre le président Donald Trump ne faiblissent pas. Hier encore, plutôt le président élu Donald Trump. Hier encore, des dizaines de milliers de manifestants exprimaient colère et défiance dans les rues de New York et Los Angeles. Analyse de cette grogne populaire par Rachel Descoste, spécialiste des politiques d'immigration, jointe par Anastasie Tudiech.
Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont déçus des résultats électoraux, pas seulement parce que leur parti n'a pas gagné, mais parce que il y a des paroles qui ont été dites, il y a des politiques qui ont été avancées, qui portent atteinte à leur sentiment d'appartenance à leur pays. Et donc, il y a eu un mécontentement par rapport aux politiques qui ont été annoncées, par rapport aux paroles qui ont été dites, et les manifestations servent à montrer leur mécontentement publiquement. Ils espèrent peut-être même changer les politiques de M. Trump ou le faire changer d'idée. On va voir si ça va avoir effet.
On a entendu qu'il a mis de l'eau dans son vin, qu'il ne va pas supprimer Obamacare, mais qu'il va apporter quelques amendements. Ça ne suffit pas à calmer les foules, visiblement.
Je pense qu'une des choses qu'il a dit hier à 60 Minutes aide à calmer les gens, mais c'est pas assez pour estomper la rage. Il a pas assez parlé du racisme qu'il a soulevé dans l'électorat américain. Et je pense que ça va prendre vraiment une dénonciation claire et précise des actes homophobes, racistes et antisémitistes et anti-musulmans pour vraiment convaincre les Américains qu'on va pas dans la direction qui va nous reculer vraiment dans une noirceur qu'ils ne veulent pas vivre.
Dans le cas où Donald Trump ne s'exprime pas sur ces sujets, en tout cas pas dans le sens où ces manifestants l'entendent, est-ce que vous pensez que nous risquons de voir des manifestations continuer dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois?
J'entrevois les manifestations continuer dans l'année qui suit, surtout le jour de la sermentation. Il y a déjà des manifs qui sont planifiées. Et tout au long, je pense, de l'administration Trump, même dire ces mots-là, c'est peut-être très difficile de sortir. Je pense qu'on va voir des gens qui vont manifester leur mécontentement publiquement. Il va y avoir beaucoup de difficultés à se faire accepter par tous les Américains.
Rachel Descoste, spécialiste des politiques d'immigration.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïman a dirigé la mise en onde. À la console, c'était Joe Hayden. À la présentation, Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. On maintient la conversation. N'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.